Nous avions médité ensemble l'an dernier ce passage d'Éphésiens 6, je crois au moment de la Pentecôte. Ce passage de Paul qui parle de l'équipement du chrétien pour le combat de la foi. D'ailleurs, hier, dans la marche que nous avons eue, on peut avancer d'une petite diapo de plus, s'il vous plaît. Voilà. Il y avait, dans cette marche pour la paix dans les rues de Bordeaux hier, aux côtés des communautés religieuses de la ville, quelque chose qui m'a donné un petit goût de reviens-y sur ce passage de Paul qui dit « Debout donc, et comme chaussures aux pieds, ayez l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. » Alors pour méditer cette exhortation de Paul, je vous invite à une approche, une marche d'approche, peut-être un peu déroutante. Au lieu de vous parler de marche à pied, de sentiers de montagne, je vais commencer par m'intéresser aux conditions qu'il faut réunir pour acheter une voiture. Très sérieux, vous allez voir, c'est une chose, bon, qu'on peut dire banale, hein, acheter une voiture neuve et stressante, tant il y a de paramètres, de choix, d'options, comme on dit sur le marché de l'automobile. Alors, selon le nombre d'options que vous choisissez, vous pouvez doubler le prix hein, du modèle de base. La voiture de vos rêves peut vite devenir un vrai cauchemar hein, au fur et à mesure des options. Cauchemar financier. Mais maintenant, imaginez qu'après la visite de la voiture de vos rêves, votre concessionnaire vous tienne ce discours. Cher monsieur, chère madame, maintenant que vous êtes fixé sur le modèle, parlons un peu des options. Le volant, vous le prenez ou pas? Parce que, précise le vendeur, sans l'option volant, ce n'est plus tout à fait la même utilisation, mais il demeure de nombreux avantages. On vous livre donc la voiture devant la maison, hein, et comme ça, tout le voisinage va voir que vous avez choisi un modèle de rêve, qui ne bouge pas, qui est garé là. Et donc, pour votre image, c'est très important, très bon, très valorisant. Vous ne roulerez jamais hein, avec votre voiture, mais vous contribuerez ainsi, deuxième avantage, à la protection de l'environnement. Avec l'option sans volant, donc 0% d'émissions de gaz carbonique. Je ferai un bon commercial, non ? On dit que les pasteurs, c'est un peu proche. Mais il y a encore d'autres avantages. Attendez, c'est pas fini. Vous conserverez tous vos points sur votre permis de conduire. Et oui, sans volant, vous ne risquez aucun accident. À condition de ne pas rouler, évidemment. Donc l'option sans volant, madame, monsieur, c'est un choix citoyen. Donc vous avez aussi noté au passage que cette histoire n'a ni queue ni tête, hein. C'est ce que vous pensez sûrement. Parce que quand on en arrive à mettre sur le même plan une option et une fonctionnalité vitale, on aboutit à une absurdité, un non-sens. Cette histoire d'option sans volant n'est en fait rien d'autre qu'une parabole de la vie chrétienne. Ne nous arrive-t-il pas de laisser notre foi sagement garé au parking des belles certitudes de la vie, des choses acquises une fois pour toutes, qu'on n'interroge plus? La foi en Christ est-elle finalement pour nous une option? Intellectuellement ou spirituellement sécurisante, mais sans aucun effet, à vrai dire, dans nos vies. Et ce que nous dit Paul ce matin, c'est que l'évangile de la paix n'est pas optionnel. Il n'est pas un plus. Mais il n'est pas non plus un rêve hors de portée. Bien au contraire, la bonne nouvelle de la paix, c'est le volant de votre vie chrétienne. Qu'est-elle devenue dans nos vies, cette bonne nouvelle ? Cette paix directrice du Christ ? Voilà la question qui est posée par ce passage de Paul. Paul utilise, vous l'avez noté, un langage très militaire dans cette partie de sa lettre. Celui du combattant qui est équipé pour la guerre. Mais en réalité, Paul ne nous parle pas de guerre. Il nous parle d'un évangile de paix pour notre monde. Et l'apôtre Paul, qui n'était pas tombé de la dernière pluie, connaissait bien les dangers qu'il y a à utiliser des métaphores un peu guerrières quand on parle de la foi. Il savait aussi que les religions ont toutes cédé à certains moments de leur histoire à l'intolérance, à la violence. Paul sait bien cela. Alors pourquoi court-il le risque d'un malentendu aussi grave en employant ce langage des armes pour parler de la foi ? Je pense que c'est parce que son ministère d'apôtre dépend avant toute chose de Jésus-Christ que le prophète Ésaïe nomme le prince de la paix. Paul veut à tout prix rappeler aux chrétiens d'Éphèse que le but ultime du combat de la foi, c'est d'être des témoins de la paix du Christ et que ce combat est difficile et redoutable. C'est bien ce que nous enseigne l'attitude de Jésus dans son ministère. Peut-être qu'on peut revenir sur la diapo du texte, s'il vous plaît. Ce qui frappe l'attention, ce qui frappe mon attention dans le ministère du Christ en parcourant les évangiles, c'est cette douceur. On le respecte pour cette douceur. Et bien au-delà du petit cercle de ses disciples, l'homme Jésus est quelqu'un qui a marqué l'histoire par la paix qu'il porte en lui, qu'il diffuse autour de lui. Ce n'est pas seulement un message de paix qu'il annonce, il est aussi un fabricant de paix, un artisan de paix. Il y a des tas de gens qui peuvent théoriser sur la paix, mais qui ne la vivent pas. Jésus était porteur de paix jusque dans ses moindres gestes. Il a poussé la non-violence jusqu'à se laisser crucifier, en laissant ainsi l'injustice des hommes se déchaîner contre lui. Et par là même, il a rendu cette injustice horrible et scandaleuse, comme s'il l'avait dévoilée dans toute son horreur. L'injustice de l'humanité devient vraiment révoltante parce que le Christ s'y soumet, silencieux, sur la croix. Y a-t-il une expérience de non-violence plus extrême que celle qui consiste à s'abandonner aux faux témoignages, à la violence injuste, aux moqueries, sans rien dire, allant même jusqu'à invoquer le pardon pour ses bourreaux? Face à cette violence radicale de l'injustice poussée contre lui à son paroxysme, Jésus oppose la puissance radicale de la non-violence. Et c'est là qu'il ne faut pas se méprendre. La paix qui rayonne de cet homme sur la croix n'a rien à voir avec un pacifisme béat, un dolorisme qui essaierait de se hisser par la douleur, moralement, au-dessus des autres, de dire qu'il est plus spirituel, lui, parce qu'il souffre, parce qu'il endure tout cela en silence. Non. La non-violence de Jésus s'exprime dans une violence radicale contre tout ce qui abîme et qui fait du mal à l'être humain. Jésus, prince de paix, est celui qui vient en découdre avec ceux qui portent atteinte à la fragilité, à la beauté, à l'intégrité de l'humanité. Jésus est d'une violence totale face à l'injustice, à la méchanceté qui frappe l'humanité, propriété chérie de Dieu. On pourrait comparer cette violence christique contre le mal à celle du Créateur. Nous l'avons lu tout à l'heure avec Dominique. Celle du Créateur au moment où il crée l'univers, quand il chasse par sa parole, quand il distingue le chaos des choses ordonnées, quand il chasse les ténèbres pour que paraissent la lumière et la vie. Jésus est l'homme engagé contre une guerre sans merci, contre la déshumanisation de l'homme. Et comble de tout paradoxe, il mène cette guerre en restant doux et humble de cœur, ami des hommes. Il prend fait et cause pour tous ceux qui souffrent, qui désespèrent, et qu'il nomme, qu'il reconnaît comme ses frères. Où puise-t-il sa force ? Il a simplement et entièrement abandonné sa destinée à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe de paix au baptême n'est pas une option de sa messianité et qui lui donne un équipement supérieur. Non, c'est son volant de direction, l'Esprit. Ouvrons-nous à la puissance de Dieu. Découvrons, frères et sœurs, cette double manière d'être présent au monde, tout en douceur, tout en résistance. Résistant aux injustes, mais sans jamais les haïr. Un tel exploit ne peut être que l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Elles sont trop étroites de nature, nos vies, pour accueillir des sentiments aussi grands, aussi paradoxaux et inconfortables. Pour pouvoir expérimenter ces choses, nos cœurs doivent se laisser, j'emploie un langage un peu physique, de la physique, se laisser dilater par l'œuvre de l'Esprit en nous. Des sandales nous sont données pour aller à la rencontre des hommes, pour aller sur ce chemin commun, chemin d'humanité, et y déposer un peu de paix. Pas le jugement, mais la paix. Ne nous trompons pas de combat. Au nom de l'évangile de paix, mettons-nous debout, comme nous y exhorte l'apôtre Paul, engageons-nous dans ce grand combat qui n'est pas contre les gens, contre les incroyants, mais bien contre l'ennemi de nos âmes qui veut notre défaite. À chaque fois que nous nous laissons gagner par des sentiments antisémites, islamophobes, xénophobes, nous faisons le jeu de l'ennemi et la paix recule. Jésus, prince de la paix, nous appelle à prier pour tous les hommes et à marcher avec eux de temps en temps dans les rues de la ville. Bénissez et ne maudissez pas. À chaque fois que nous nous laissons envahir par les logiques identitaires, nationalistes, quand la peur de manquer ou de perdre devient le principe moteur de nos vies, de nos journées, nous nous plaçons sous l'autorité de l'ennemi. Nous devenons adeptes du Dieu toxique, le Dieu des ruptures, des conflits, le Dieu des séparations, des cloisonnements. Nous faisons le jeu du prince des ténèbres et abandonnons le prince de la paix. Ce prince de la paix qui nous appelle à marcher en nouveauté de vie vers les autres, sans peur, à chausser les belles sandales, les bonnes sandales de la paix. Frères et sœurs, Paul nous parle d'un combat, pas d'une partie de plaisir, vous l'avez senti. Il y a grande urgence à laisser l'Esprit de Dieu renouveler et équiper nos vies. La douceur bienfaisante qui était en Jésus nous est offerte. Non comme une option, comme la direction même de nos vies. La douceur est l'arme la plus désarmante qui soit. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus, et vous trouverez le repos de vos âmes. Sœurs et frères, chaussons donc ces sandales qui rendront possible notre marche au-devant de tous, comme messagers de paix. Paix sur vous, au nom de Jésus-Christ. Paix sur vous, sur vos peurs, sur vos colères, au nom de Jésus-Christ. Paix sur vous, sur votre lecture du monde, comme sur votre lecture de la Bible. Et paix sur vos relations. Paix sur vous, au nom puissant du Prince de la paix. Amen.